On accueille notre prochaine invitée. Bonsoir Henri Guénaud.
Bonsoir.
Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, le procureur financier, vous avez dû l'entendre ce matin, a répondu aux accusations de Nicolas Sarkozy. Non, la décision de la condamnation à 5 ans de prison n'a pas été motivée par la haine des magistrats. On l'écoute.
Nous n'avons pas de haine à exprimer. Chacun peut penser, évidemment, ce qu'il souhaite en son fort intérieur d'une situation. Mais nous, je l'ai déjà dit sur cette antenne, Thomas Soto, notre boussole, c'est le droit, c'est la règle de droit. Le tribunal, dans son jugement, valide ce pacte de corruption. Il dit, sous la qualification d'association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy a cherché à obtenir, et il l'a obtenu, un financement libyen en contrepartie d'une reprise des relations diplomatiques avec la Libye.
Henri Guénaud, donc notre invité, nous a rejoint également sur le plateau. Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce dossier Nicolas Sarkozy. On a entendu votre colère, votre incompréhension au moment où cette condamnation est tombée. C'était juste avant le week-end. Vous lui avez parlé directement depuis, Henri Guénaud ? Aucun échange ?
Non. Non, j'ai beaucoup parlé en dehors, beaucoup parlé à tout le monde, mais j'ai pas beaucoup, je ne lui ai pas parlé.
Vous avez entendu ce matin le procureur dire « Nous n'avons pas de haine à exprimer, notre boussole c'est le droit, c'est la règle de droit ».
Alors, sur la haine, moi je n'ai aucune opinion et je n'ai jamais utilisé cet argument, c'est-à-dire je ne sais pas si les juges le haïssaient ou ne le haïssaient pas.
Pour vous, ce n'est pas une décision politique ?
Non, enfin, je trouve que tout mettre sur une décision politique, c'est passer à côté de l'essentiel. Voilà. C'est-à-dire que les juges ont des opinions politiques, certains sont très politisés, mais je ne crois pas que ça soit le problème essentiel. Je pense que si on n'avait pas eu ces juges-là, on en aurait eu d'autres et que ça aurait probablement été la même chose parce que la dérive elle est de l'institution judiciaire en France, comme dans tous les pays occidentaux, elle est très profonde. Voilà. C'est la part de la subjectivité grandit sans arrêt.
Il y a une dérive de l'institution judiciaire.
Oui, il y a une dérive. C'est-à-dire que il y a d'abord les jugements reposent de plus en plus sur des appréciations subjectives, au point de réduire de plus en plus la part de la preuve, en tout cas des éléments de preuve tangibles. Bon, et là, je trouve qu'on arrive, vraiment à un sommet de cette dérive. Quand même, c'est le des procès sans des jugements sans preuve. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Hein, c'est pas nouveau, mais c'est la première fois qu'un tribunal reconnaît qu'il n'a pas de preuve et qu'il condamne quand même.
Condamné pour association de malfaiteurs et pour le tribunal, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ignorer les manœuvres de ses proches avec la Libye, c'est-à-dire Quédrian et Brice Hortefeux.
Il faut comprendre que d'abord, il a relaxé sur les motifs qui avaient conduit à ce procès. Quoi. S'il est relaxé sur le financement, s'il est relaxé sur le détournement de fonds publics étrangers et s'il est relaxé sur la corruption, avec l'argument qu'il n'y a pas de preuves qui permettent de le condamner. Et on va chercher l'association de malfaiteurs pour dire, mais quand même, on le condamne quand même. On a preuve de rien, mais on le condamne quand même. Or, l'association de malfaiteurs, elle exige, pour être démontrée, elle exige, c'est le code pénal qui le dit, des éléments matériels. Matériels, c'est pas subjectif, c'est pas des hypothèses, c'est pas des... Voilà, matériels. Où sont les éléments matériels ?
Alors, Laurent Valdiguier, vous qui avez suivi cette affaire, on a entendu cet argument tout au long du week-end, il n'y a pas de preuve, il est condamné quand même.
Bien sûr, bien
vous qui avez suivi ce dossier.
Alors, c'est vrai que c'est bien que ce matin, le président de la Cour d'appel, et puis le président du tribunal de Paris, et puis le procureur général financier, a un peu remis l'église au centre du village, en expliquant qu'il n'y avait pas de complot, et les décisions judiciaires.
J'ai pas dit qu'il y avait un complot. Hein,
non, ils ont attendu 4 jours, on aimerait bien qu'ils en disent quand même un peu plus, parce que sinon, c'est vrai qu'on est mis... Là, vous me mettez dans la situation de devoir expliquer ce jugement. Qu'est-ce que c'est une preuve, Monsieur Guénaud ? Là, il n'y a pas de trace ADN, il n'y a pas de flagrant délit, personne n'était dans le bureau, aucun magistrat, aucun policier n'était dans le bureau de Abdallah Senoussi quand Claude Guéant et Brice Hortefeux sont venus. Ça, c'est vrai. Il y aura toujours parole contre parole, ça a été une expression qui a été souvent utilisée. Il y a des traces écrites. Les traces écrites, ce sont les versements, estiment les juges, de Azad Takieddine, des Libyens, dans le but, dans l'état d'esprit des Libyens, c'est ce que dit le jugement, hein, de financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a cette fameuse pièce, c'est une pièce qui, au sein de ce procès, a joué un rôle énorme. C'est ce journal intime de l'ancien ministre du pétrole, Choukri Ghanem. Hein, vous le savez, Monsieur Guénot, on en a déjà parlé. Ce journal intime, qui est la date d'avril 2007, fait état d'une conversation à midi. Il n'y avait aucune raison que ce journal intime atterrisse jamais dans un procès judiciaire. Aucune. Il était dans un grenier, il dormait dans une malle. Des effets personnels de Choukri Ghanem après son décès, il a été découvert complètement par hasard par ses enfants. Dans le cadre d'une enquête norvégienne, il est revenu en France. Le commandant Vidal, le policier chargé de l'enquête, a raconté à la barre. C'est vrai que Nicolas Sarkozy n'était pas là ce jour-là, ni ses avocats, et que personne ne l'a interrogé, le commandant Vidal. Mais il a raconté à quel point cette pièce avait joué un rôle très important, puisqu'elle a convaincu les magistrats, d'abord les enquêteurs, puis les magistrats dans le cadre de leur délibéré, que les Libyens avaient réellement, Monsieur Guénot, le sentiment, l'impression, la volonté, voilà, c'est ça, la volonté, parce que dans l'association de malfaiteurs, il faut une volonté de financer la campagne.
Ça ne vous convainc pas?
Non, ça ne me convainc pas du tout. D'abord, alors, on ne va pas refaire le,
non,
on va pas refaire le procès. Sauf que ce document n'a jamais été expertisé. Alors, c'est peut-être la faute des avocats, si vous voulez, mais en tout, c'est un fait. Bon, il n'a jamais été expertisé. D'autre part, la parole des Libyens paraît quand même sujette à caution. Et si je crois, il me semble bien que dans ce document, l'ancien ministre du pétrole ne dit pas j'ai vu les faits se dérouler. Il dit on m'a raconté
qu'on a. Une discussion de midi. Voilà.
Comment ?
Il parle d'une discussion du jour avec.
Oui, il dit une discussion avec des gens qui lui ont dit que ouais. Des gens leur avaient raconté
bon,
que.
On va voilà. Pas refaire le fond non. Effectivement.
Ce que
du
je
veux dire,
c'est qu'il y a rien. Il y a rien de très convaincant. Qu'est-ce qu'une preuve ? On peut toujours se poser la question. Mais si on la pose, comme vous venez de le faire, en poussant la logique très loin, c'est effrayant pour tout justiciable quand même. Hein. C'est-à-dire que moi, je dis pas qu'il y ait une preuve définitive, mais des éléments tangibles. Quand on dit qu'il pouvait pas ignorer, le seul fait d'aller voir un terroriste poursuivi sur le plan international à Tripoli ne suffit pas, parce que des gens comme ça, on en rencontre tout le temps dans cette zone
est-ce
grise.
Est-ce que c'est pas dangereux aussi, Henri Guénot ?
C'est assez rare quand même. Hein ? Les ministres, c'est assez
rare. Non, c'est pas si rare. Ça peut être un ministre, ça peut être un envoyé, ça peut être... Voilà, on peut envoyer un préfet.
C'est pas rassurant. Marché. Que des ministres puissent rencontrer des gens.
Mais non, c'est normal. Hein, c'est-à-dire, c'est normal. On est dans cette zone grise où règne ce qu'on appelle la raison d'État, où la seule règle qui existe dans ce, c'est l'intérêt général ou l'intérêt supérieur de la nation ou ses intérêts vitaux. Et voilà. Et vous avez des,
c'est difficile quand
vous
même.
Vous avez des services secrets.
De comprendre ce type de relation.
Mais le grand public, ce problème, il comprend rien du tout. Ni ce type de relation. Là, non, mais en ce moment.
Avec un terroriste condamné par la France.
Non, mais ni la décision de justice. Oui. Alors, la décision de justice.
Je voulais revenir quand même
pour la plupart des gens.
Sur vos mots là, vous parlez d'une dérive de l'institution judiciaire. Est-ce que c'est pas dangereux justement d'employer ces termes-là? Je voulais qu'on écoute à nouveau le procureur financier, puisque les magistrats dans cette affaire ont été menacés de mort pour certains. Voilà ce qu'il répond lui ce matin.
Ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, après le rendu du délibéré, est proprement insupportable et inadmissible. Quand on vient critiquer avec violence et menaces de mort un tribunal, c'est l'état de droit qui est menacé. Et souvenons-nous, l'état de droit, c'est le socle de la démocratie. Ouais. Je peux vous le dire, à cette heure, je suis sûr que Montesquieu est en train de se retourner dans sa tombe.
Et Emmanuel Macron, ce week-end, est sorti de son silence sur ces menaces proférées contre les juges. Les attaques et menaces de mort, anciennes ou récentes, contre plusieurs magistrats sont inadmissibles. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur, dès leur survenance, que leurs auteurs soient identifiés pour être rapidement poursuivis. Est-ce que vous ne nourrissez pas ces menaces,
Henri
Guénot, en tenant ce genre de propos ?
C'est un argument inadmissible. Voilà, inadmissible. Moi, j'ai jamais menacé personne de mort. J'ai toujours réclamé que ceux qui menaçaient de mort, qui que ce soit poursuivis, condamnés beaucoup plus sévèrement qu'on le fait. Donc, j'ai pas de doute. Bien sûr, il faut les identifier, les arrêter et les condamner. Voilà. Qu'ai-je donc dit qui puisse pousser des gens à menacer de mort? Vous croyez qu'ils me lisent et qu'ils m'écoutent?
Mais quand on parle de dérive de l'institution judiciaire,
on peut rien dire. On peut rien dire. On a un jugement que vous trouvez absurde, que vous trouvez menaçant effectivement pour l'état de droit et pour la démocratie, parce que vous verrez ce qu'il en restera de ce jugement. Ce jugement, il marque une rupture. Et cette rupture naîtront les plus graves inconvénients pour la démocratie et pour la République et pour l'état de droit et pour l'institution judiciaire. Voilà ma conviction profonde, et je devrais la taire. Je devrais la taire sous prétexte qu'il y a des cinglés qui se promènent dans la nature et qui ont envie de tuer des juges, des policiers, des... Enfin, c'est quand même, c'est aberrant. Vous connaissez la phrase de Voltaire, honte au pays où l'on se tait. Voilà. Moi, je ne me tairai pas. Voilà. Je ne dis rien de, je n'insulte personne, je ne menace personne. Je fais une analyse et j'exprime mon indignation pour les conséquences qu'aura ce jugement.
Et donc Nicolas Sarkozy ne va pas trop loin quand dans le JDD ce week-end, il parle d'une décision motivée par la haine des magistrats. Il estime que toutes les limites de l'état de droit ont été violées. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est grave. C'est une véritable dérive dans notre démocratie.
Oui.
Alors, vous partagez cette opinion ?
Encore une fois, la haine des magistrats, moi je ne comprends pas cet argument. Lui, il pousse un cri qui est de cri de sa propre révolte, de sa douleur, de sa souffrance, et il a bien le droit de pousser un cri. Enfin, je veux dire, c'est compte tenu du traitement qu'on lui réserve. Bon, mettre en prison un ancien président de la République, ça n'est pas rien, c'est pas banal. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit partout. Il y en a eu deux avant lui, Louis XVI et le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain, on l'a même pas mis en prison avec des prisonniers de droit commun. Le général de Gaulle a commué sa peine de mort et l'a envoyé à l'Île-Dieu.
C'était une prison quand même.
Comment ?
C'était une prison, l'Île-Dieu.
Oui, mais c'est quand même, il était tout seul là. Oui. Il pouvait se promener sur l'île. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est un événement extraordinaire. Est-ce que les informations dont disposait un tribunal qui a relaxé sur les trois chefs d'inculpation Nicolas Sarkozy, est-ce que ça pouvait justifier une telle peine ? Voilà, ma conviction est non. Les magistrats ont une autre conviction. Bon, ils disent la leur. Permettez-moi de dire la mienne. La mienne n'a pas les conséquences de leur propre conviction, puisque leur propre conviction entraîne effectivement des conséquences pour la personne qui est condamnée. Moi, je ne fais pas la loi, mais je trouve que la contrepartie minimale de l'indépendance de la justice, c'est qu'on puisse critiquer ces décisions. Je n'ai insulté personne, encore une fois, ni menacé personne.
Et cela dit, effectivement, il y a une partie de l'opinion publique qui a été choquée par cette décision de justice. Une partie, alors, il y a eu des responsables politiques, évidemment, on les a entendus ces derniers jours.
Ils n'ont pas été beaucoup choqués, les responsables politiques.
Et des personnalités...
Toi, à droite.
Public.
Surtout à droite.
Samis Faxi, du monde de la télévision notamment.
Alors, situation extraordinaire, avalanche de réactions également. Du monde politique, on le disait, c'est vrai qu'à droite c'était un peu plus discret, mais véritablement oui, de certaines personnes qui se sont révélées, en tout cas celle qui a fait le plus parler d'elle, c'est celle de Karine Lemarchand, la célèbre animatrice d'M6, qui s'est dit choquée par cette décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris. Écoutez.
Je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'un faux. Et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Je pouvais pas ne pas le dire. Nicolas, tu as tout mon soutien. Carla, tu as tout mon soutien. Et si je peux faire quelque chose, vous me le demandez.
Coup de gueule de Karine Lemarchand.
Oui, mais au passage, elle sort quand même, vous savez, de sa neutralité politique qu'elle revendique très régulièrement parce qu'elle présente une émission sur M6 qui s'appelle Une ambition intime, dans laquelle elle interroge un certain nombre de politiques. Cette prise de position a beaucoup choqué. Il y a eu beaucoup de réactions, à tel point qu'elle a dû s'expliquer sur les réseaux. Voici ce qu'elle a dit à ceux que mes opinions dérangent. Je vous conseille de ne pas me suivre sur mes réseaux, destinés à ceux qui m'aiment uniquement, car rien, ni personne, et surtout pas vos petites remarques désobligeantes sous pseudonyme ne me feront taire ou changer, passez votre chemin, bonne route, anyway, je vous bloque. Voilà, donc c'était un peu l'ambiance du week-end que l'on pouvait voir sur les réseaux. Ce n'est pas la seule, Bernard-Henri Lévy qui était également sur ce plateau de BFM TV et a apporté son soutien à Nicolas Sarkozy, on va l'écouter aussi.
Les principaux chefs d'accusation sont écartés, qu'il est admis qu'il n'y a pas de corruption, qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, qu'il n'y a pas tout ça, comment on peut quand même envoyer un ancien président en prison? Je ne comprends pas. Et ce qui me choque le plus, c'est la mise en détention, avant même, enfin, vous savez tout ça, avant le procès en appel.
Bon, il faut quand même rappeler que Bernard-Henri Lévy a été le principal architecte, en tout cas, de la chute du régime de Muammar Kadhafi.
C'est pas l'architecte. Il a introduit les représentants d'opposition libyenne. Il a fait rencontrer Nicolas Sarkozy. Après, il a eu un rôle à un moment donné de mettre en contact l'opposition démocratique libyenne avec le président Sarkozy. Je sais, j'assistais à cette réunion, comme beaucoup de responsables du gouvernement. Et c'est tout. Après, il n'est intervenu en rien. Il n'est pas l'architecte de quoi que ce soit.
En tout cas,
d'ailleurs, Jean-Michel Apathy également. Il n'y a pas que la droite. Une partie de la droite. Jean-Michel Apathy, avec qui d'ailleurs Laurent a échangé il y a quelques heures, qui lui a pris la défense, en effet, de Nicolas Sarkozy. En tout cas, a dénoncé cette mesure provisoire.
Il y a eu Laurent Vallier. C'est vrai, dans une partie de l'opinion publique, cette impression qu'on est particulièrement dur avec Nicolas Sarkozy, qui ne représente pas de danger, alors qu'on ne l'est pas avec certaines personnes violentes.
Henri Guénaud, il est parfaitement sincère et dans son rôle quand il s'émeut de tout ça et quand il est épouvanté, parce qu'il le dit, Henri Guénaud, il est épouvanté de cette image que l'on va vivre dans quelques jours de caméras suivant une voiture dans laquelle Nicolas Sarkozy ira s'engouffrer à la prison de la
Santé. Mais Karine Le Marchand aussi, visiblement, vous avez vu.
C'est ça qui l'épouvante, Henri Guénaud, c'est cette image. Mais est-ce que pour la France, Monsieur Guénaud, finalement, pour l'honneur de la République, après cette première vérité judiciaire qui est celle des juges du tribunal correctionnel, est-ce que l'honneur de la République n'est pas justement d'aller au bout de ce processus, c'est-à-dire d'un procès en appel, d'une décision en cassation et de la fin d'un cycle judiciaire.
La question, au-delà, moi je commande pas la décision de justice, mais ce qui me choque, mais ça m'avait de la même manière choqué pour Marine Le Pen, c'est que finalement l'appel dans cette affaire, puisqu'on sait bien que si Nicolas Sarkozy fait quelques mois de prison avant ça, la décision, elle est déjà appliquée avant l'appel. Ça, moi, je vous, j'ai du mal à le comprendre.
C'est ce qu'on appelle pour nos téléspectateurs.
Qui ne va pas partir à l'étranger.
Ça rend
la décision illisible et incompréhensible pour l'opinion.
Vous critiquez l'exécution provisoire
qui est en fait une exécution immédiate, Julie.
C'est une exécution tout court.
En dépit de l'appel. Il a fait appel, mais il ira en prison.
Désolé pour la justice, et moi je pense que c'est grave de critiquer l'institution judiciaire, mais c'est illisible, c'est pas assez bien expliqué, pas assez bien motivé par les juges dans leurs 450 pages.
Et d'ailleurs, pardon, après cette décision, ils ont fait savoir qu'ils allaient améliorer leur communication et faire en sorte de mieux expliquer les décisions de justice. J'aimerais qu'on écoute Jean-Pierre Raffarin sur l'antenne de BFM TV ce soir.
Moi, je pense qu'il faut respecter la justice. Je pense que la justice, et les magistrats notamment, ils appliquent le droit. Donc moi, je propose tout de suite des changements de notre droit. Je pense qu'il faut faire assez vite un texte de loi pour que l'exécution immédiate ne concerne que les gens directement et immédiatement menaçants. Il n'y a aucune menace Sarkozy pour le pays. Donc cette décision immédiate est quelque chose de très difficile à accepter, de se dire « il est présumé innocent, il va en prison ».
Il faut changer la loi, Henri Guénaud, concernant cette exécution provisoire, comme le demande Jean-Pierre Raffarin.
Oui, parce qu'il faut l'encadrer avec des critères précis. Personne ne comprend les raisons qui ont pu conduire le tribunal à imposer cette exécution provisoire, comme d'ailleurs dans le cas de Madame Le Pen.
Les motivations
qui sont apportées sont incompréhensibles. Voilà. Donc il faut changer la loi. Moi, je veux pas du tout qu'on supprime l'exécution provisoire du code pénal. Elle est très utile pour énormément de cas, et c'est tout à fait normal qu'elle soit utilisée. Deux cas. Et il y a pas que d'ailleurs. Il y a tous les élus locaux qu'on soumet à l'exécution provisoire pour ce qu'on appelle des délits de probité, qui sont souvent très 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 bénins, en fait. C'est maintenant on met tout dans le même panier, et puis on les oblige à quitter leur mandat. Donc il y a des cas où condamnés en première instance, complètement blanchis en appel.
C'est le maire de Toulon.
Alors, le maire de Toulon, l'appel a eu lieu.
Non, mais il a été, voilà. Donc il faut changer la loi.
Parce qu'en l'occurrence, ce que la justice dit là, c'est on a appliqué la loi, que votre famille politique, tend à rendre encore plus sévère sur ces questions-là.
Toutes les familles politiques s'en sont mêlées de rendre toujours plus sévère, mais toujours plus sévère en écrivant mal la loi, c'est-à-dire en laissant aux juges une énorme part d'appréciation, et on voit bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Quand je voudrais revenir un sens sur le mot dérive, quand je parle de dérive, je parle pas de dérive individuelle ou de dérive politique, je parle de dérive quant à la conception du rôle du juge dans la société. Voilà. On est en train de passer d'une conception qui consistait à dire le droit à une conception qui maintenant fait du juge un justicier. Voilà. Le juge, il est là alors pour donner des peines exemplaires, pour moraliser la vie publique, il est pas là pour moraliser quoi que ce soit. Il est là et c'est demain. Moi, ce que je voudrais, c'est que on se mette à réfléchir collectivement sur cette question. Voilà. Et au lieu de dire, on peut pas critiquer la justice, ils ont rien à dire, et puis le législateur a qu'à se débrouiller. Tout le monde a sa part de responsabilité. Le législateur, l'opinion publique aussi, et les magistrats. Donc, il faut absolument trouver le moyen de mettre ou de se mettre des limites dans la subjectivité des jugements et définir beaucoup mieux ce que doit être le rôle d'un juge dans une société comme la nôtre.
Jean-Marc Silvestre, encore une fois, la justice dit qu'elle ne fait qu'appliquer la loi.
Bien sûr, elle dit ça.
Ça, c'est votre point de vue.
Elle dit ça, mais elle l'applique à sa façon.
N'étant pas juriste, je me garderais bien de porter quelques jugements que ce soit sur le jugement. Je suis effaré par l'image que tout ça va donner de la France, de son fonctionnement, de ce dysfonctionnement. Je ne sais pas si vous avez regardé la presse étrangère depuis le week-end, mais c'était assez apocalyptique, quoi. On est dans un pays où rien ne fonctionne, le budget n'est pas voté, le gouvernement n'est pas nommé, le Parlement n'a été dissous.
Vous ne faites pas de transition, Jean-Marc Silvestre, c'est magnifique.
Vous rendez compte l'état de délabrement dans lequel se trouve le pays. Et maintenant, c'est la justice, parce que l'impression que ça donne à quelqu'un qui n'est pas professionnel, qui n'est pas juriste, qui ne connaît pas bien les choses. Je me dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Ça a duré combien de temps, cette histoire? Ça a duré combien? Plus de 10 ans, monsieur Guénot, non?
Oui, plus de 10 ans.
Moi, faudrait qu'on voit combien ça a coûté, à la fois en argent, en hommes, en stress, en nervosité, en stabilité.
Oui. Et tout ça pour arriver à un résultat où le juge relaxe en disant j'ai pas de preuves pour le condamner. C'est quand même extraordinaire, sur les 3 chefs d'inculpation qui ont constitué les 10 ans d'investigation. Donc, il y a quand même quelque chose, on peut en parler, et il faut
mais
en parler.
Mais alors, attendez, pardonnez-moi, mais quand ça va pas bien dans un hôpital, il y a des gens qui jugent la façon dont l'hôpital fonctionne. Quand ça va pas bien dans la justice, est-ce qu'il y a des instances pour juger le fonctionnement de la justice?
Non, il n'y a pas de responsabilité du juge sur les décisions juridictionnelles. Voilà. Parce que c'est l'indépendance de la justice, comme ça, et c'est peut-être quelque chose auquel il faut réfléchir. Et s'il y a un dysfonctionnement de l'institution judiciaire, c'est-à-dire qu'on a violé des règles de procédure, tout ça a été reconnu par la... on est en cassation, alors on peut... Alors c'est très intéressant, la victime peut faire un recours devant un tribunal, le tribunal, c'est souvent arrivé, peut condamner l'État, mais c'est l'État qui le condamne, pas le juge.
Mais il est quand même très surprenant, juste un mot là-dessus, parce que ça me paraît vraiment extrêmement important. Il est vraiment très surprenant d'entendre aujourd'hui des gens expliquer que finalement les décisions de justice devraient échapper à toute critique, oubliant même que c'est cette critique même qui participe à l'élaboration du débat public, à tort ou à raison. Mais c'est parce qu'on a pu aussi à un moment critiquer les décisions de justice qui punissaient, qui sanctionnaient extrêmement sévèrement les femmes qui avaient recours à l'avortement alors même que c'était interdit, qu'on a pu évoluer sur le droit. Je ne suis pas en train de comparer les deux affaires, je dis simplement que la critique...
Mais là, le débat c'est plutôt un deux poids deux mesure entre la délinquance, entre le blanc et les autres.
Il y a quand même ce refrain selon lequel finalement la justice devrait échapper à la critique. L'institution judiciaire devrait échapper à la critique. Or, c'est la critique même qui a permis à un moment certaines avancées et qui a nourri le débat. Donc attention, cette espèce aussi de deux poids, deux mesures. On critique finalement l'institution judiciaire échappe à toute remise en cause dès lors que la décision nous plaît. Et sinon, on se jette dessus. c'est aussi nourrir et c'est aussi participer à, au débat public et à l'élaboration de la loi.
Un tout dernier mot là-dessus, Nicolas. Mais
si on n'avait pas critiqué la justice à l'époque, le procès de Dreyfus n'aurait jamais été révisé. Exactement. Et c'est vraiment une critique répétée, une pression à la fin politique qui réouvre l'enquête. Mmh. Et mieux que ça, à la fin, le procès est révisé avec une fracture dans la Cour de cassation entre la Chambre civile et la Cour criminelle qui se disputent.
Et s'il n'y avait pas eu tout ça,
Dreyfus n'aurait pas été réalisé.
Alors, Henri Guénaud, vous restez avec nous. Je vous ai rejoint sur le plateau. Affaires, hein, Alex, oui, j'allais dire l'affaire Dreyfus.
Non,
Sarkozy, pas pareil, mais j'ai compris ce que vous vouliez dire derrière. Merci, Henri.